Chapitre 12. L'hellénisme. Une étincelle du feu. Le professeur de philosophie avait commencé à faire parvenir les lettres directement à la vieille haie. Mais par habitude, Sophie tint cependant à jeter un coup d'œil à la boîte aux lettres lundi matin. Elle était vide. Il fallait s'y attendre. Alors elle se mit à descendre l'allée des trèfles et aperçut soudain une photographie par terre. C'était l'image d'une Jeep blanche avec un drapeau bleu qui portait la mention « ONU ». N'était-ce pas le drapeau des Nations Unies? Sophie retourna la photo et vit que c'était une carte postale adressée à Hilde Møller-Knag, aux bons soins de Sophie Amundsen. Le timbre était norvégien et avait été oblitéré par le contingent des Nations Unies le vendredi 15 juin 1990. Le 15 juin. Mais c'était l'anniversaire de Sophie. Le texte de la carte disait « Chère Hilde, je suppose que tu es encore en train de fêter ton anniversaire, à moins que ce ne soit déjà le lendemain. Enfin, savoir combien de temps tu profiteras de ce cadeau, voilà qui n'est pas le plus important, puisque d'une certaine façon, il durera toute ta vie. Alors laisse-moi juste te souhaiter un joyeux anniversaire. Tu auras compris, je pense, pourquoi j'envoie les cartes à Sophie. J'ai la profonde certitude qu'elle te les transmettra. PS, maman m'a dit que tu avais perdu ton portefeuille. Je te promets de te donner 150 couronnes pour le remplacer. Quant à ton certificat de scolarité, tu en obtiendras sans problème un autre de l'école avant les grandes vacances. Ton papa qui t'embrasse tendrement. » Sophie resta pétrifiée, comme collée à l'asphalte. Quelle était la date du cachet de la poste sur la carte précédente? Quelque chose en elle lui disait que l'autre carte avait aussi été oblitérée en juin, bien qu'il restât encore un mois d'ici là. Mais elle n'avait peut-être pas fait attention. Elle regarda sa montre et rentra précipitamment à la maison. Tant pis si elle était en retard. Elle referma la porte à clé derrière elle et monta dans sa chambre où elle retrouva sous le foulard de soie rouge la première carte adressée à Hilde. Elle ne s'était pas trompée. Le cachet indiquait le 15 juin, c'est-à-dire l'anniversaire de Sophie et le dernier jour de classe avant les grandes vacances. Tout en courant rejoindre Jørund au centre commercial, ses pensées se bousculaient. Qui était Hilde? Comment son père pouvait-il être aussi sûr que Sophie la retrouverait? De toute façon, c'était complètement absurde de lui envoyer des cartes à elle plutôt qu'à sa fille directement. Il devait quand même connaître l'adresse de sa propre fille. C'était une plaisanterie ou quoi? Voulait-il faire une surprise à sa fille en se servant d'une inconnue pour jouer les détectives et les messagers? Était-ce pour cette raison que les cartes étaient antidatées d'un mois? S'imaginait-il en la prenant comme intermédiaire offrir à sa fille une nouvelle amie en cadeau d'anniversaire? Était-ce elle ce cadeau qui devait durer toute la vie? Si cet étrange père se trouvait vraiment au Liban, comment avait-il obtenu son adresse? Sophie et Hilde avaient en tout cas deux points communs. Si l'anniversaire de Hilde tombait aussi un 15 juin, elles étaient nées le même jour et avaient toutes les deux un papa qui voyageait dans le vaste monde. Sophie se sentit entraînée dans un univers magique. Après tout, croire au destin, ce n'était pas si idiot que ça. Mais elle ne devait pas tirer des conclusions trop hâtives. Il existait certainement une explication. Cela dit, comment se faisait-il qu'Alberto Knox ait retrouvé le portefeuille de Hilde alors qu'elle habitait à l'île Sand, à des dizaines de kilomètres du chalet? Et pourquoi Sophie avait-elle trouvé la carte postale par terre? Est-ce que le postier l'avait perdue de sa sacoche juste avant d'arriver à la boîte aux lettres de Sophie? Mais dans ce cas, pourquoi juste cette carte-là? « Non, mais tu as vu l'heure !» s'écria Jørund en apercevant enfin Sophie. « Je sais. » Jørund lui jeta un regard aussi sévère que celui d'un professeur d'école. « J'espère que tu as une excuse valable. »« C'est à cause de l'ONU, » répondit Sophie. J'ai été retenue par une milice ennemie au Liban. Arrête avec tes histoires. T'es amoureuse, c'est ça ? Puis, elles coururent à l'école aussi vite que possible. L'interrogation écrite du cours de religion, que Sophie n'avait pas eu le temps de réviser, eut lieu en troisième heure. Tel était l'intitulé du sujet. Conception de la vie et tolérance. 1. Dresser une liste de ce qu'un homme doit savoir, puis une seconde liste de ce en quoi un homme doit croire. 2. Indiquer certains facteurs qui déterminent la conception de vie d'un homme. 3. Que veut-on dire par conscience? La conscience est-elle selon vous la même pour tous? 4. Qu'entend-on par échelle des valeurs? Sophie se concentra longuement avant d'écrire la première ligne. Pouvait-elle se servir de certaines choses qu'elle avait apprises d'Alberto Knox? Elle y était en fait obligée, car cela faisait plusieurs jours qu'elle n'avait même pas ouvert son livre de religion. À peine avait-elle commencé que les phrases jaillirent de sa plume. Sophie écrivit que nous savons que la Lune n'est pas un grand fromage et qu'il y a aussi des cratères sur la face cachée de la Lune, que Socrate et Jésus furent condamnés à mort, que tous les êtres humains sont appelés à mourir un jour ou l'autre, que les grands temples sur l'Acropole furent érigés après les guerres persiques vers l'an 400 avant Jésus-Christ et que le principal oracle des Grecs était celui de Delphes. Comme exemple de ce que nous pouvons seulement croire, elle cita le problème de savoir s'il y avait de la vie sur d'autres planètes, s'il existe un Dieu, s'il y a une vie après la mort, et si Jésus était le Fils de Dieu ou juste un être intelligent. En tout cas, nous ne pouvons pas savoir quelle est l'origine du monde, conclut-elle. L'univers peut se comparer à un gros lapin qu'on sort d'un grand chapeau haute forme. Les philosophes essaie de grimper le long de l'un des poils fins de la fourrure du lapin pour regarder le grand magicien droit dans les yeux. Y parviendront-ils un jour? On peut se poser la question. Mais si chaque philosophe grimpe sur le dos d'un autre philosophe, ils finiront par s'éloigner de plus en plus de la fourrure moelleuse du lapin. Et à mon avis, ils réussiront un jour. P.S. Dans la Bible, nous entendons parler de quelque chose qui peut avoir été un de ces poils fins de la fourrure du lapin. Ce poil-là, c'était la tour de Babel qui fut rasée parce que le grand magicien n'a pas aimé que des petites bestioles d'hommes veuillent se hisser et s'échapper du lapin blanc qu'il venait de créer. Elle passa à la deuxième question. Indiquer certains facteurs qui contribuent à déterminer la conception de vie d'un homme. Le milieu et l'éducation jouaient, cela va de soi, un rôle primordial. Les hommes qui vivaient à l'époque de Platon avaient une conception de vie différente de celle des gens d'aujourd'hui, simplement parce qu'ils vivaient à une autre époque et dans un autre milieu. Les expériences que l'on choisissait de faire comptaient elles aussi. La raison ne dépendait pas du milieu, elle était commune à tous les hommes. On pouvait peut-être comparer le milieu et les conditions sociales avec la situation qui prévalait au fond de la caverne de Platon. La raison permettait à l'individu de quitter en rampant l'obscurité de la caverne. Mais une telle entreprise nécessitait une bonne dose de courage personnel. Socrate constituait un bon exemple de quelqu'un qui s'était affranchi des opinions courantes de son temps en faisant appel à sa raison. Sophie conclut en écrivant: de nos jours, des hommes de pays et de cultures très différents se mêlent de plus en plus. Dans un même immeuble, on peut voir se côtoyer des chrétiens, des musulmans et des bouddhistes. Il importe davantage de respecter la croyance de chacun plutôt que de se demander pourquoi tous ne croient pas en la même chose. Tout bien réfléchi, Sophie trouva qu'elle ne se débrouillait pas trop mal avec ce qu'elle avait appris de son prof de philosophie. Il suffisait de rajouter quelques remarques sensées ici et là et reprendre des phrases qu'elle avait lues ou entendues dans un autre contexte. Elle attaqua la troisième question. Qu'entend-on par conscience? La conscience est-elle selon vous la même pour tous? C'était un sujet dont il avait été beaucoup question en classe. Sophie écrivit. On entend généralement par conscience la faculté qu'ont les hommes de réagir vis-à-vis du juste et du faux. Tous les hommes possèdent, selon moi, cette faculté. En d'autres termes, la conscience est innée. Socrate aurait dit la même chose. Mais ce qu'on entend par « conscience » peut beaucoup varier d'un individu à l'autre. Il est légitime de se demander si sur ce point, les sophistes n'avaient pas raison. Eux pensaient que la distinction entre le juste et le faux dépendait avant tout du milieu dans lequel l'individu grandit, alors que Socrate prétendait que la conscience était commune à tous. Il est difficile de dire qui a raison et qui a tort, car si certains hommes n'ont pas mauvaise conscience à se montrer nus, la plupart ont en tout cas mauvaise conscience s'ils ont fait du tort à leur prochain. Précisons en passant qu'avoir une conscience n'est pas la même chose qu'utiliser sa conscience. Certaines personnes peuvent paraître agir sans le moindre scrupule, mais à mon avis, ils ont aussi une conscience, même si cette dernière est bien cachée. Ainsi, il est des êtres apparemment dépourvus de raison, mais c'est parce qu'ils ne s'en servent pas. PS, la raison, comme la conscience, peuvent être comparées à un muscle. Si on ne se sert pas d'un muscle, il devient progressivement de plus en plus faible. Il ne restait plus que la dernière question. Qu'entend-on par échelle des valeurs? C'était un sujet à la mode. Rien de tel que savoir conduire pour se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre. Mais si les automobilistes contribuent à la mort de la forêt et à l'empoisonnement de la nature, on se trouve confronté à un problème moral. Et Sophie écrivit que des forêts saines et une nature propre étaient finalement plus importants que d'arriver vite au travail. Elle cita d'autres exemples et conclut « Mon avis personnel est que la philosophie est une matière plus importante que la grammaire anglaise. Ce serait par conséquent respecter l'échelle des valeurs que de rogner un peu sur les heures d'anglais pour introduire la philosophie dans l'emploi du temps. » Pendant la récréation, le professeur prit Sophie à part. « J'ai déjà corrigé votre devoir, » dit-il. « Il était tout en haut de la pile. J'espère que vous y avez trouvé votre bonheur. » « C'est justement ce dont je voudrais vous parler. En un sens, vous avez répondu avec beaucoup de maturité. Oui, une maturité étonnante même, et très personnelle. Mais vous n'aviez pas révisé, n'est-ce pas ?» Sophie se défendit. « Vous aviez dit que vous apprécieriez les considérations personnelles. »« Soit, mais il y a des limites. » Sophie le regarda droit dans les yeux. Elle trouvait qu'elle pouvait se le permettre après tout ce qu'elle venait de vivre. « J'ai commencé à étudier la philosophie, » déclara-t-elle. « Cela donne de bonnes bases pour se forger ses propres opinions. » « Mais cela rend votre devoir difficile à noter. Soit je vous donne 20, soit je vous mets 0. »« Ce que j'ai écrit est donc tout juste ou tout faux, c'est ça ?»« Allez, on va dire 20, » conclut le professeur. « Mais que cela ne vous empêche pas de réviser la prochaine fois. » Quand Sophie revint de l'école l'après-midi, elle jeta son cartable dans l'escalier et courut aussitôt vers sa cabane. Elle trouva une enveloppe jaune posée sur la grosse racine. Les coins étaient tout secs. Cela devait faire quelque temps qu'Hermès était venu la déposer. Elle emporta l'enveloppe et s'enferma dans la maison. Elle donna d'abord à manger à tous ses animaux, puis monta dans sa chambre. Elle s'allongea sur le lit, ouvrit la lettre d'Alberto et lut « L'hellénisme ». « Comment ça va depuis la dernière fois, Sophie ? Je t'ai déjà parlé des philosophes de la nature, de Socrate, de Platon et d'Aristote. Avec eux, tu as en main les fondements de la philosophie occidentale. C'est pourquoi nous laisserons tomber dorénavant les questions à méditer entre chaque leçon que je te donnais en devoir dans une enveloppe blanche. Les devoirs et autres exercices, je pense que tu en as déjà assez comme cela en classe. Je vais te parler de la longue période qui s'étend d'Aristote à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du Moyen Âge, vers 400 après Jésus-Christ. Tu remarqueras que nous écrivons désormais avant et après Jésus-Christ, car justement, il s'est passé à cette époque quelque chose de primordial. et de très étrange, à savoir la chrétienté. Aristote mourut en 322 avant Jésus-Christ, date à laquelle Athènes n'exerçait plus sa domination. Telle était la conséquence des grands changements politiques ainsi que des conquêtes d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand était roi de Macédoine. Aristote aussi venait de Macédoine. Il fut même un temps le précepteur du jeune Alexandre. C'est Alexandre qui remporta la dernière victoire décisive contre les Perses. Autre chose encore, Sophie. À l'aide de sa nombreuse armée, il relia l'Égypte et tout l'Orient jusqu'à l'Inde à la civilisation grecque. On entre alors dans une ère toute nouvelle de l'histoire des hommes. Une nouvelle société à l'échelle mondiale vit le jour, au sein de laquelle la culture et la langue grecque jouèrent un rôle prédominant. Cette période, qui dura environ 300 ans, on l'a appelée l'hellénisme. Le terme d'hellénisme recouvre à la fois la période proprement dite et la culture à prédominance grecque qui s'épanouit dans les trois grands royaumes hellénistiques, la Macédoine, la Syrie et l'Égypte. À partir de 50 avant Jésus-Christ, Rome eut la suprématie militaire et politique. La nouvelle grande puissance reconquit les unes après les autres toutes les provinces hellénistiques, et ce fut au tour de la culture romaine et du latin de pénétrer loin en Asie et de s'étendre à l'ouest jusqu'en Espagne. Ce fut le début de l'époque romaine, ce que nous appelons aussi l'Antiquité tardive. Mais il faut bien retenir une chose. Lorsque les Romains réussirent à conquérir le monde hellénistique, Rome était déjà devenue une province de culture grecque. Ainsi s'explique le fait que la culture grecque, et partant la philosophie grecque, continuèrent à jouer un rôle important, alors que les Grecs, sur le plan politique, en étaient réduits à n'être plus que les acteurs d'une épopée.